Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition du 11 février 2013, La Voix de la librairie sur Radio Fiat Lux. Je me présente, Mylène Brunet. C'est moi qui animerai cette émission d'aujourd'hui. Exceptionnellement, Catherine Doré reprendra du service le premier lundi du mois de mars, alors on lui souhaite bonne écoute. Aujourd'hui, on discute lecture et genre littéraire avec nos trois invités. D'abord, Hugues Saint-Pierre qui nous parlera de science-fiction. Ensuite, Marie-Hélène Dubé discutera avec nous de littérature islandaise d'hier à aujourd'hui. On terminera ensuite l'émission avec Catherine Rochette, qui jasera avec nous de littérature fantastique. Mais avant de commencer, une pièce musicale, Cosmogonie de Björk, tirée de son plus récent album Biophilia. Bonne écoute.
Thank you.
écoutions Cosmogonie de Björk, de son dernier album Biophilia. Alors, on a avec nous Hugues Saint-Pierre. Bonjour Hugues.
Bonjour Mylène.
Ça va bien?
Bien sûr, et toi?
Oui, aujourd'hui, tu nous parles de science-fiction.
Oui, oui, parce que dans le fond, comme tu sais possiblement, je suis un grand fan de l'auteur Philip K. Dick.
Ouais.
Il va être question prochainement. Mais avant toute chose, je vais juste dire que là, je suis comme une espèce de période d'exploration, de voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui s'est fait dans le passé. Et premièrement, j'écoute plein de films de science-fiction, aussi qu'ils soient bons ou mauvais, on écoute.
Mais... ben, d'abord, pourrais-tu nous dire en quoi ça consiste exactement la science-fiction? C'est-à-dire qu'on a tous un peu une idée, mais toi, comment tu le définirais, le genre?
C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de sous-genres, je dirais, dans la science-fiction. Mais moi, je suis plus fan de genre, l'anticipation. C'est comme on est dans une situation future avec un contexte soit politique, technologique ou autre qui est, autrement différent d'aujourd'hui, mais qui a des enjeux qui sont actuel.
On peut nommer 1984, par exemple, comme exemple de roman d'anticipation où on se projette dans un futur politique totalitaire.
Il se projetait en plus en 1944.
C'est 1948.
48,
OK. Ouais, on fait juste inverser les chiffres, en fait. On tourne 84 en 48.
Écoute, tu vois, t'es meilleur que moi en science-fiction.
Non, pas du tout, Mais,
Fait que c'est ça, j'étais en période d'exploration. Fait que l'autre fois, je vais à la librairie. Et qu'est-ce que je vois pas? Un petit livre, une petite introduction, tout simplement, c'est la science-fiction.
Parfait.
Et c'est son titre même, Science Fiction, A Very Short Introduction de David Seed. Pardon. Mais peut-être avant de parler du livre en tant que tel et de l'auteur, peut-être parler de la série. Hein. C'est la série A Very Short Introduction d'Oxford.
OK, et, c'est une collection, dans le fond?
Oui, exactement. Puis on retrouve toutes sortes de thèmes. Et, je vais te donner des exemples rapidement. Là, on touche autant la religion que la philosophie, l'anthropologie, tout ça. Là,
OK.
L'anarchisme, l'ancienne Égypte, l'ancienne philosophie, l'anglicanisme, etc.
OK,
j'étais
ça
juste dans
vise
les
large.
C'est un bon petit tourniquet. Là. Il n'est pas gros, mais il y a quand même pas pire d'ouvrage.
Les éditions, les trois souhaits, je crois?
Non, ça, c'est le deuxième livre que je vais parler. C'est chez vraiment Oxford University Press, je pense.
Oui, probablement.
2011, donc c'est quand même très récent. Alors, peut-être quelques mots sur l'auteur. David Seed, lui, dans le fond, il est professeur de littérature américaine à l'Université de Liverpool. On doit entre autres l'ouvrage Companion to Science Fiction. Mm-hmm. Donc, c'est quelqu'un qui est très... il est fort là-dedans.
Il est versé là-dedans.
Oui, exact. Et bon, il y a différentes contributions à différents volumes, mais aussi des articles dans des journaux. Et il est aussi, entre autres, sur le comité éditorial du Journal of American Studies. Donc, je crois que c'est quand même un homme de pointure.
Un homme pointu ou de pointure, je ne sais pas.
En tout cas. Puis là, ce champ de recherche et d'intérêt, il aborde autant la culture de la guerre froide, science-fiction, bien sûr, les relations de la fiction et les films, mais aussi les écrits de voyage.
Oui. Qu'est-ce qu'il fait exactement, dans le fond, comme introduction? Est-ce qu'il présente les sous-genres dans son ouvrage?
Il y a un petit...
genre de science-fiction?
Oui, il fonctionne par thème. Chaque chapitre, c'est un thème, là, je vais les dire en français. Le premier, c'est voyage dans l'espace, rencontre extraterrestre, ou plutôt, en anglais, c'est alien encounter, pour être plus précis. Après ça, c'est science-fiction, la technologie, utopie et dystopie, fiction du temps, le champ de la science-fiction. Et c'est dans ce chapitre-là qu'il aborde un peu... pas nécessairement les sous-genres, mais plutôt les différents médias, les différents médiums dans lesquels on retrouve la science-fiction.
Puis, est-ce qu'on sait à partir de quand ce genre-là a émergé, si on veut?
Bien, c'est ça, parce que c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est que, il fonctionne par thème, ce qui est vraiment très pratique, mais c'est que là-dedans, il part de très loin. Souvent, la science-fiction, on l'attribue à Gernsback, en tout cas, je le prononce pas bien parce que je suis vraiment pourri avec les noms, tu m'excuseras.
Mais pas de problème.
Dans le début du 20e siècle, avec j'ai un blanc de mémoire. La revue d'anticipation, là, t'as les petits pulpes qu'on appelle communément en anglais, là.
Un peu dans les espèces de petites séries qu'il y avait dans les magazines.
Oui, exact. Là, j'ai vraiment un trou de mémoire. Ça va pas bien. Mais en tout cas, tout ça là étant dit, souvent on pense que la science-fiction est vraiment tributaire du début 20e siècle. Mais non, ça monte vraiment plus loin.
Okay.
Puis c'est l'avantage du livre. On recommence. Il remonte tout le temps.
Mais
on remonte vraiment loin. Et le terme science-fiction, ça a toute une histoire quand même. Bon, c'est quand même court, là, mais en tout cas, bref, au 17e siècle, on retrouvait déjà des textes qu'on pourrait qualifier de science-fiction. Dans lui, il va parler de Cyrano de Bergerac.
OK, Cyrano. Dans... En quoi Cyrano serait de la science-fiction? Est-ce qu'il l'explique
Il va pas sur la Lune, hein?
Ah, ben oui.
Je pense qu'il va sur la Lune un moment donné. Je le connais pas, moi, j'ai pas lu, je suis pas très littérature classique, je suis un peu poche sur cet aspect-là.
On va te demander à partir de maintenant d'arrêter de te déprécier.
Bon, écoute, je suis extraordinaire. Moi, les années 1657 pour Cyrano, je suis le meilleur non-connaissant.
Parfait.
Et bon, sinon, ben, on va plus au 19e siècle, par exemple, avec Joseph Artelet avec Voyage to the Moon, 1827. Mais sinon, c'est ça. Puis, parce qu'en fait, la science-fiction, souvent, on va dire, par exemple, Frankenstein de Mary Shelley, si je ne me trompe pas. C'est 1812. Et on considère ça comme de la proto-science-fiction parce que, justement, la thématique est très... Bon, la relation créateur-créature, la relation avec les autres.
Technologie, médecine.
Exactement. Jusqu'où peut aller la limite de la science. Et en plus, ça s'inscrit dans la mouvance de la modernité, si on veut, avec la conquête de l'anatomie et tout ça. Fait que là, on coupe du monde en morceaux, puis on en fait un.
Ouais, on aura sûrement l'occasion d'en reparler de Frankenstein avec Catherine un peu plus loin, parce que je ne sais pas si on peut qualifier ça de fantastique ou de science-fiction. Elle est où, la manche? En tout cas, on verra.
Ouais.
On pourra lui poser la question.
Peut-être qu'elle va le dire, mais en tout cas, moi, à mon sens, c'est vraiment, ça se trouve dans les interprétations, les différentes adaptations, pardon, par exemple, dans les films et tout ça, c'est beaucoup plus fantastique, horreur, mais en tout cas, ça, c'est... On verra peut-être qu'elle, elle ne sera pas du même avis. Mais bon, sinon, par rapport à ce livre-là, pourquoi c'est un must à avoir? Ben, premièrement, il est court. Hein? J'aime ça quand c'est court, parce que ça dépasse 400 pages, là, en tout cas... Je suis pas... Bon, je lis, mais trop ça m'énerve, tu sais. Mais bon, c'est ça,
c'est
le livre, bon, A Very Short Introduction, ça le dit, ça fait pas plus de 130, 140
pages. Quand même une maison d'édition respectable aussi.
Exactement, par un professeur respectable qui sait de quoi qu'il parle. Et c'est justement l'avantage de ça, c'est qu'il sait de quoi qu'il parle, donc il met tous les thèmes ensemble, il fait évoluer puis tout ça. Par exemple, justement, je te dis, il fonctionne par thématique. Et ça, c'est parfait pour voir l'orientation historique de ces thèmes-là, tout simplement. Oui.
Maintenant, le second ouvrage dont tu vas nous parler, c'est une introduction à Philippe K. Dick.
Exactement. Mais encore là, je suis quand même ambigu de dire que c'est une introduction. Mais c'est comme son titre le dit, Le petit guide à trimballer de Philippe K. Dick. C'est vraiment un petit guide à mettre dans sa poche pour savoir... Qu'est-ce que c'est, j'ai envie de lire, de Philippe K. Dick. Et ça, on doit ça à Étienne Barillier, comme tantôt tu disais. C'est chez...
Oh, aux éditions des Trois Souhaits.
Exactement.
Donc, série,
non. Et c'est ça, la série Actu SF. Et bon, ça, il y a quelques ouvrages sous la direction de Barillier qui sont, c'est tous des petits guides comme ça.
OK. Puis ça se présente sous quelle forme? Dans le fond, tu parlais de résumé d'ouvrage de Philippe K. Dick?
Oui. En fait, c'est un mélange de résumé et d'appréciation de l'auteur du livre.
OK.
Alors, le sommaire est très... Il tire un peu partout. Mais c'est malgré tout intéressant, puisque Philippe K. Dick, il tire un peu partout. Lui est quand même plus intelligent et tout a un sens lorsque
mais
c'est des bons livres.
Il colle au style de l'auteur.
Oui. On peut dire ça. Mais... par la façon de procéder, c'est-à-dire, comme je dis, il tire un peu partout. Mais bon, c'est ça. Dans ce livre-là, on retrouve, entre autres, il parle de certains livres... l'intérêt majeur, c'est de voir l'évolution de l'écriture de Dick. Fait qu'il part de ses premières années. Après ça, il s'en va dans ses débuts d'écrivain. Et après ça, bon, la section qu'il a appelée « En conversation avec Dieu », puisque une bonne partie des livres forts et de fin de vie de Dick sont issus d'expériences personnelles avec... des expériences qu'on pourrait dire spirituelles, religieuses et tout ça, mélangées
okay.
avec...
Je connaissais pas ça du tout de K. Dick.
En fait, il y en a qui vont dire qu'il est mort de schizophrène, mais qui sommes-nous pour juger de son expérience? Mais bon, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Il fait une petite biographie, très intéressante. Les jeunes années, sa période d'écriture, les années heureuses et les années compliquées, parce que Dick, c'était un homme très tourmenté aussi. Pour avoir lu quelques-unes de ses lettres, il était parano, puis il gardait toutes ses affaires, ses lettres, tout ça, j'en ai lu un peu. Et on voit effectivement que c'était un homme avec un passé, un caractère très, très lourd, on peut dire.
Toi, t'en as lu beaucoup de Philippe K. Dick. Quels ouvrages tu suggérerais pour moi, recommanderais pour quelqu'un qui aurait le goût de s'initier à son œuvre?
Ouais, initier, ben, ça dépend si la personne aime les lectures ardues et aime avoir une bonne claque dans le visage, je peux dire. Ubique, c'est vraiment c'est un classique, là. Très, très compliqué surtout. Puis je crois qu'à chaque lecture, on renouvelle sa découverte. Mais sinon, peut-être plus une lecture commune, je dirais.
Ce serait
Blade Runner.
Ouais. Moi, qui a été adapté aussi en film,
ouais,
il me
exact.
Semble.
C'est ça. Puis justement, le livre fait un petit tour des adaptations pour
cinématographiques
dire...
Cinématographiques aussi.
Exactement.
Okay,
ou même les BD et les jeux vidéo, qui bon, il n'y en a pas beaucoup. Là. Mais justement, jeux vidéo, il y a eu Blade Runner. J'ai pas joué, j'ai juste essayé un peu, mais c'est très... c'est dans le même environnement du film de Ridley okay. Scott. Et en tout cas, à essayer.
À essayer. Puis sinon, ce serait quoi les principaux thèmes, les thèmes de prédilection, dans le fond, de Kudik? Il se place où, lui? Il se situe où dans la science-fiction? Ce sont des romans d'anticipation?
Ouais, quand même. Plus aussi délire psychotique, je pourrais dire. Mais il y a toujours quelque chose, un sens social derrière, quand même très présent. Si on fait juste penser à Radio Free Albemuth, qui est comme son prélude de la trilogie divine. Là-dedans, on voit vraiment... Il dépeint une espèce d'uchronie, d'une certaine façon... des États-Unis du temps de la crise du pétrole.
Ah, OK.
Puis là-dedans, on retrouve différents... Un peu sa vision de... Je peux pas dire s'il pensait que ça allait arriver, mais le sentiment d'être oppressé par un gouvernement, si on veut, un peu pas fin, mais en tout cas...
OK, qui est un thème récurrent, hein, le gouvernement qui est... oppressif, si on veut, dans la science-fiction.
Oui, puis dans lui, c'est sûr que c'est moins prenant que dans d'autres auteurs, mais on le retrouve quand même souvent dans la manipulation, mais aussi dans la notion de l'illusion. L'illusion est très présente. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est vraiment ça, son leitmotiv de ses meilleures années d'écriture. Là, parce que justement, Ubik, à chaque fois que... Ben, quand tu le finis, tu ne sais pas si c'est vrai ou non.
OK, parfait.
C'est un vrai délire. Puis parce que justement, la plupart de ses gros délires dans ses livres sont basés sur ses propres expériences de LSD ou autres substances,
okay.
Ou tout simplement paranoïa. Ouais.
Bon, ben je te remercie, Hugues.
Ça fait plaisir.
Ce fut très éclairant. Merci beaucoup. On s'en va écouter une pièce. Attendez que je le prononce correctement. Tu vas voir, moi aussi, Hugues, quand il s'agit de noms islandais, je rush un peu. C'est Eind de Kemur Jusild de la Fure Arnalds. Donc, bonne écoute. Thank you. Alors, c'était la pièce de Inde, Kemur Yozild, de la Fure Arnald. Il y a une auditrice ici qui nous disait que pour prononcer les mots islandais, il fallait parler comme une stalactite. Donc, je vais essayer de m'en rappeler. Pour la deuxième partie de l'émission, on a Marie-Hélène Dubé qui va nous parler de littérature islandaise, justement. Bonjour Marie-Hélène.
Salut Mylène.
Ça va bien?
Très bien, merci.
Oui, donc parle-nous un peu de ce qu'est exactement la littérature islandaise et de ses origines.
Oui, bien dans le fond, le début, l'alphabétisation en Islande est arrivée avec la christianisation en l'an 1000, dans le fond. Mais la littérature vraiment commence plus au 12e siècle. C'est surtout les hommes d'église qui ont écrit parce que c'était les lettrés, dans le fond.
Comme ici au Québec.
Oui, oui. Même que entre, dans le fond, le 12e et le 14e siècle, on parle d'un miracle islandais parce que il y a eu une production vraiment importante de littérature. Puis c'était, bon, pendant le Moyen Âge, on parle même que c'est le fleuron de la littérature médiévale parce que ailleurs, il n'y avait peut-être pas grande production non plus.
OK, à ce point-là.
Oui. Et dans le fond, ils ont aussi inventé un genre à eux, les sagas, qui vient du verbe segia, donc compter. Les sagas portent sur des événements qui sont passés un peu plus tôt, donc vers le 10e, 11e siècle. Puis le but, c'est surtout de raconter l'histoire des ancêtres, leurs grands faits. Mais c'est toujours très épique, puis c'est toujours écrit en prose aussi.
OK. Ça prend la forme un peu d'espèce de légende.
Oui, mais c'est très assez violent. Mais ça reflète pas mal la réalité aussi. C'est assez historique quand même, même si c'est sûr que c'est exagéré. Ça rapporte toujours des faits historiques. C'est une bonne source d'information.
OK, quand même. Les historiens peuvent se servir de ça quand même pour replacer certains faits puis essayer de décoder un peu qu'est-ce qui s'est passé.
Oui, exactement. Il y a plein de personnages qui ont existé vraiment. Là. Par exemple, on a la saga d'Éric le Rouge. Éric le Rouge a réellement existé. Puis c'est toute l'histoire de ses descendants et donc du premier qui est venu en Amérique, le premier Européen en Amérique. Puis sinon... il y a aussi d'autres sortes, dans le fond, de littérature. Il y a les Eddas qui ont été écrits à peu près dans la même période, puis qui est la principale source d'informations sur les mythologies de tous les peuples scandinaves.
Okay.
Donc vraiment, là, c'est ce qui a été écrit dans cette période-là, c'est très important pour les historiens.
Oui, c'est précieux. Là. C'est une source d'informations, c'est des archives incroyables.
Oui, exactement. Puis c'est vraiment une grande source de fierté pour les Islandais. Ils s'en sont beaucoup servis dans leur... dans leur quête d'indépendance, dans le fond. C'était vraiment leur fierté, ils s'en vantaient beaucoup. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les sagas ont été écrits en vieux norrois, mais comme, bon, l'Islande est isolée, la langue n'a pas beaucoup évolué. Puis, un Islandais d'aujourd'hui est tout à fait capable de lire une saga du 13e siècle
dans sa version originale, là, si on veut. Alors que même nous, lire du vieux français, c'est pas toujours facile.
Non, effectivement. Fait que, dans le fond, il y a beaucoup de jeunes qui ont vraiment lu. Là. Ça fait vraiment partie du patrimoine. C'est assez vivant.
OK. Puis c'est quand même intéressant de savoir que le mot saga, qui est encore en usage aujourd'hui, est islandais, dans le fond, de ses origines.
Oui.
Une saga, dans notre tête, on parle souvent de saga familiale, puis ça réfère souvent à un genre, justement, qui est épique.
Oui,
donc,
oui,
c'est... Moi, je ne savais pas du tout que ça venait de là. Là. Je vais me coucher moins niaiseux ce soir.
Ça l'a aussi donné, le même mot a donné en anglais « singing », chanter, c'est la même source.
Okay.
Puis en allemand aussi, chanter, là, sagen, c'est la même chose.
OK, parfait. Puis aujourd'hui, la littérature en Islande, quelle place ça prend? Bon, tu me parlais que les jeunes d'aujourd'hui lisent encore les sagas. Donc, j'imagine qu'ils lisent pas que ça. S'ils prennent la peine de lire, d'aller dans le patrimoine du 12e siècle...
Non, c'est ça. C'est extrêmement important, la littérature en Islande. C'est sûr que quand un peuple est isolé, la littérature sert beaucoup à s'évader, mais aussi à s'informer, à se connecter au reste du monde. Mais c'est à tel point important que l'Islande détient le record de publication de livres, de journaux et de revues par année. Il détient aussi le record de fréquentation des bibliothèques.
Donc, j'imagine même que ça doit être le record de publication pour le nombre d'habitants. Là.
Surtout,
ça doit être assez incroyable.
J'avais vu la statistique pour 2011, on parlait de 8 publications par année par habitant.
C'est incroyable, c'est fou.
La légende veut, le proverbe veut plutôt qu'un Islandais sur 10 va publier un livre dans sa vie. Là. C'est quand même important. Puis le genre prédominant, comme dans un peu toute la Scandinavie, c'est le polar, le roman policier.
Ouais.
Puis d'ailleurs, les sagas en étaient un peu, en quelque sorte. Là, c'est une continuation.
Oui.
Le principal représentant de l'Islande pour le policier, c'est Arnaldur Indridason, qui vend ouais. beaucoup.
Ah oui, je me souviens quand j'étais libraire au Renombré, on en vendait énormément. Là. Puis tout ce qui est polar scandinave, ou en tout cas nordique, pas seulement islandais... Ça connaît une recrudescence là, ces dernières années.
Oui, c'est vraiment leur spécialité. Ils sont reconnus pour ça. Puis même Indridason, il y a eu des adaptations au cinéma. Là. Il y a La Cité des Genres, entre autres, que je n'ai pas vu, mais qui a été adaptée.
Okay.
Mais autre fait intéressant, c'est que l'Islande a un prix Nobel de littérature.
Ça, je ne savais absolument pas non plus. Son nom, c'est?
C'est Halldór Laxness, vraiment le plus important... pas mal des contemporains. Là. Ça date de 1955, son prix. Puis, il a eu pour une trilogie qui est écrite qui s'appelle La cloche d'Islande, puis qui est vraiment... c'est sûr qu'il y a du romancé, mais c'est basé beaucoup sur des faits historiques. C'est un peu laborieux à lire parce qu'il a vraiment essayé de garder le style des sagas.
Okay.
Mais c'est une source d'informations assez incroyable là, sur l'histoire de l'Islande. En allant, moi, en Islande, j'avais l'impression de marcher dans l'histoire grâce à son livre, là, dans le fond.
Tu es allée en Islande là, un an, dans le fond, en oui. mars 2012?
Oui, exactement.
OK. Fait que t'es une passionnée, dans le fond. T'es allée oui. voir toi-même ce que tu lisais depuis des années, dans le fond.
Oui, puis, absolument.
Puis est-ce que ça correspondait, cet univers-là, qu'on retrouve dans les romans islandais? Est-ce que ça correspond vraiment à la réalité?
Oui, je dirais que un peu toutes les œuvres artistiques, pas juste la littérature, mais la musique, le cinéma, tout islandais, reflètent vraiment l'ambiance du pays parce que, dans le fond, le principal spécialiste de l'Islande, qui s'appelle Régis Boyer, il explique ça par la lumière. Là. Il dit okay. que c'est comme la faute de la lumière. La lumière est très oblique beaucoup parce que c'est au nord, c'est assez grisâtre, c'est toujours un peu flou. Puis à cause de ça, dans les histoires islandaises, il y a pas de frontière nette entre le réel puis le surnaturel. Il y a toujours du surnaturel qui ressort partout.
Ouais, une espèce de lumière de comment je pourrais dire, pas d'outre-tombe là, mais de on dit souvent que le crépuscule, c'est de toute façon partout dans le monde que c'est la frontière entre le surnaturel, puis la réalité, ouais.
Oui, mais c'est ça, c'est vraiment les croyances, même aujourd'hui, tu sais, dans tout ce qui est surnaturel, là, le petit peuple, les trolls, n'importe quoi, c'est assez présent parce que le paysage puis la lumière s'y prête. Puis les autres auteurs aussi que j'ai lus, contemporains islandais, c'est vraiment original comme littérature, mais c'est toujours très poétique, puis imagé, puis ça reflète vraiment...
Il y a une sensibilité particulière
ouais,
qu'on peut vraiment sentir. Moi, j'ai pas lu de polar. J'ai lu, mais c'est suédois, là, Millennium. Mm-hmm. Donc, on est dans le nord, mais on n'est pas en Islande. Mm-hmm. Mais une auteure que tu sauras sûrement prononcer mieux que moi, Odur Ava
Olafsdottir,
oui, parfait, qui a publié.
Ça date un petit peu, ces publications, mais ils viennent d'être traduites en français il n'y a pas longtemps.
Chez Zulma, je crois, ouais. des superbes éditions en passant.
Oui,
là.
Exactement. Il y a Rosa Candida qui a été traduit et l'embellie aussi. Elle a un troisième roman là, qui n'a pas été traduit pour l'instant. Puis c'est très poétique là, comme roman.
Oui, non, moi j'ai vraiment été charmée par cet auteur-là, là, par l'espèce de sensibilité, puis vraiment une ambiance particulière. Là, puis la description des paysages aussi qui est tellement... on sent qu'on est dans le nord, mais c'est tellement différent quand même de notre réalité à nous oui. au Québec. Elle dit pas nécessairement toujours dans ses romans où est-ce qu'on se trouve exactement, mais on a vraiment l'impression d'être dans un autre univers.
Ouais,
là,
oui,
carrément,
avec
là,
des volcans, puis on n'est pas habitué.
Sur une autre planète, là, carrément.
Oui, puis aussi, dans le fond, moi, ce que je remarque beaucoup de cet auteur-là, c'est qu'elle a un genre narratif particulier, puis c'est ce pourquoi les auteurs contemporains d'Islande sont reconnus, là, leur type de narration. Mais en même temps, c'est assez décousu. Je ne sais pas si tu as trouvé ça.
Oui.
Mais lisant, elle passe d'une histoire à une autre. Mais pire qu'elle, il y a Sion, qui est aussi un auteur connu islandais. Lui, c'est quelque chose... C'est vraiment... Il part dans tous les sens. C'est plein de petites histoires les unes dans les autres. On ne voit pas le lien. C'est, c'est vraiment pété, là. Mais c'est super à lire. C'est
d'ailleurs... Sion, qui est le parolier de la chanson qu'on a entendue, dans le fond, de Björk de tout à l'heure, Cosmogonie, puis sûrement d'autres chansons de Björk aussi.
Oui, mais pas de toutes, là, mais quand même de beaucoup de Björk, puis entre autres des paroles de Dancer in the Dark, le film avec de Lars von Trier. Il a gagné un prix pour ces paroles-là. C'est un poète aussi assez reconnu.
Ouais. Parfait. Puis, dans les autres contemporains, est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient connus, qui auraient une renommée
Je peux te nommer des noms, mais j'en ai pas lu.
OK, parfait. Puis d'ailleurs, je pense que je vais t'épargner l'exercice de nommer d'autres auteurs. Moi-même, ça me fait carrément... Ça me donne des sueurs froides. Donc... Sinon, qu'est-ce que tu aurais à nous proposer comme lecture? Qu'est-ce que toi, tu penses que pour quelqu'un qui voudrait s'introduire à la littérature islandaise?
OK. Je crois que ça dépend énormément de la motivation à lire, de l'intérêt au départ, dans le sens que si quelqu'un veut vraiment apprendre plus sur l'histoire, l'historique, c'est ça, de l'Islande, ça serait sûrement Halldór Laxness qui serait... Sûrement les sagas aussi, je les ai pas lues malheureusement, mais ça doit être...
Mais étant donné que lui se place comme en continuation, puis que ses romans, en tout cas que sa trilogie est très, très historique, ouais. Ça serait
Pour l'information, là, ça serait ça, mais sinon, moi, mon préféré que j'ai lu, c'est « Sur la paupière de mon père » de Sion, mais c'est vraiment décousu. Il faut être prêt à plonger dans un genre de littérature qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas souvent. Hein.
Bon, ben parfait. Ben, merci beaucoup, Marie-Hélène, d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
On écoute une autre pièce d'un autre genre cette fois-ci, c'est « Schisme de Toul ». Donc, on se revoit après la pause.
Let's come from the square and up there. crumble the mess. We grow and strengthen our communication.
C'était Schisme de Toul. On est de retour avec Catherine Rochette qui va nous parler littérature fantastique. Bonjour Catherine.
Bonjour.
En fait, moi je te commencerai par te demander c'est quoi exactement la littérature fantastique? Parce que personnellement, je suis souvent embêtée, même quand je vais à la librairie, on voit littérature fantastique, puis là-dessous, on met Harry Potter ou des contes, des trucs comme ça. C'est quoi exactement? Comment tu définirais le genre en tant que tel?
Ben moi, comment je le vois, en fait, c'est vraiment une opposition qu'il y a entre le naturel puis le surnaturel. Donc, qu'on parle de surnaturel, ça peut aussi juste être de l'improbable. Puis justement, cette opposition-là, elle va faire naître une hésitation ou un doute chez le personnage. Et en fait, dans cette confrontation-là, il ne faut pas qu'il y ait à la fin une destruction de l'un ou l'autre de ces deux ordres-là. Et ce qui est vraiment important, c'est que le personnage, il doit réagir au surnaturel, à l'élément qui est improbable dans le récit pour que ce soit du fantastique.
OK. Donc, il y a toujours une tension entre le naturel et le surnaturel jusqu'à la fin. Puis, il faut que le personnage soit conscient, justement, qu'il soit confronté par le surnaturel.
Oui, c'est ça. Okay. S'il considère pas que c'est différent de sa réalité et qu'il n'y a pas de réaction face à ça, on n'est pas dans le fantastique.
OK. Bon, donc si, je sais pas, il y a un personnage qui a un ami imaginaire et qui vit très bien avec ça, ce serait pas du surnaturel. Ça serait pas du fantastique.
Non, ce serait pas du fantastique.
OK, parfait. Donc, lorsqu'il y a présence d'esprit ou autre, il faut vraiment qu'il y ait un malaise, hein, parce que souvent, c'est ce qu'on voit dans la littérature fantastique. Moi, en tout cas, ce que je me donne comme exemple, c'est souvent la littérature d'Edgar Allan Poe où il y a une espèce de malaise qui est toujours présent.
Exact.
Peux-tu nous parler un peu des autres genres avec lesquels la littérature fantastique peut souvent être confondue?
Oui, il y a le réalisme magique qui, contrairement au fantastique, ça va être vraiment une juxtaposition du réel et du surnaturel plutôt qu'une intrusion.
OK.
Donc, c'est vraiment, le surnaturel fait partie de la normale de ce monde-là.
Donc, le personnage n'est pas agressé par le surnaturel.
Ce qu'il y a de particulier aussi dans le réalisme magique, c'est que c'est vraiment un genre qui va exprimer un commentaire sur un contexte social.
OK.
Puis, c'est ça, il n'y a pas de trace d'hésitation du personnage, de doute ou quoi que ce soit. Là, il n'y a pas, il y a rien qui est remis en question dans le surnaturel des choses. Ça fait vraiment partie de la réalité de ce monde-là.
OK. C'est comme... Ça fait partie de la cosmogonie, on pourrait dire, de la manière de voir le monde du personnage. Là.
Oui, c'est ça.
OK, parfait.
Exact. Puis ensuite, il y aurait le merveilleux. Là, le merveilleux, je pense qu'on est plus familier avec ça. C'est vraiment l'univers des contes. Il y a tout ce qui est surnaturel, ça fait vraiment partie prenante de l'univers. On n'a pas à se poser de questions pourquoi est-ce qu'il y a des fées marraines et des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une citrouille qui se transforme en chariot?
On est dans un monde qui est littéralement enchanté.
Exactement. Donc, okay. On n'a pas de questions à se poser. On l'accepte comme c'est.
C'est un peu la littérature avec laquelle on était en contact quand on était tout petit.
Oui, okay. Effectivement. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la fantasy, qui, elle, c'est vraiment l'héritière des contes et des légendes, mais aussi des épopées antiques, des récits de chevalerie. Puis on va souvent baigner dans un univers qui ressemble un peu à du merveilleux, mais médiéval.
Okay.
C'est vraiment un monde aussi qui va avoir ses propres lois. Il va avoir beaucoup de magie, c'est ça. Il va avoir des époques lointaines. Des fois, c'est médiéval. Des fois, ça a des influences médiévales, mais on ne sait pas exactement quand ça se situe. Et puis, encore là, il n'y a pas d'opposition entre nature et surnaturel.
On pourrait peut-être parler du Seigneur des Anneaux de Tolkien.
C'est pas mal l'exemple le plus flagrant.
Oui, le plus crédible aussi.
Voilà.
Et celui qu'on n'aurait pas de mal à conseiller à nos spectateurs.
Exactement.
Et pas les Chevaliers d'Émeraude.
Non, non.
Parfait.
Voilà. Et finalement, il y a aussi un genre avec lequel on peut confondre, et c'est plus compréhensible, le fantastique, c'est ce qu'on appelle la littérature gothique.
Oui. C'est quoi exactement la littérature gothique? Parce que moi, quand j'entends gothique, je pense à l'époque victorienne. Est-ce que ça a un lien ou je suis dans le champ, là, complètement?
Ben, en fait, le gothique, ça a pris naissance, la littérature gothique, dans le 18e siècle.
OK.
C'était vraiment à l'époque de la fascination des cadavres, la vénération des tombeaux. On fréquentait les cimetières juste pour le plaisir.
Peut-être l'époque aussi, peut-être que tu vas me détromper, là, mais de l'ésotérisme aussi, dans les cercles.
Ça va arriver peut-être un petit peu plus vers le 19e siècle.
Okay. OK, c'est plus tardif.
Un petit peu plus. En fait, en littérature, il va y avoir le cimetière puis la mort qui vont vraiment faire une entrée avec force avec les poètes de ce qu'on appelle l'école des cimetières. Ça, c'est vraiment en Angleterre. Puis va se joindre à ça ensuite un retour de l'intérêt pour le gothique, mais vraiment au niveau de l'architecture.
Ouais.
Donc, avec les châteaux, les ruines, on va construire des ruines.
Il va avoir aussi... C'est un beau paradoxe.
Oui. Tout ce qui est les cloîtres, les églises, puis tout ça. Donc, ça va vraiment influencer le roman gothique qui, en fait, se caractérise particulièrement par le pouvoir que les lieux ont de susciter l'inquiétude.
Okay.
Puis évidemment aussi, il y a tout le temps une espèce de présence de la mort dans ces romans-là. Puis l'élément, en fait, surnaturel est présent, généralement avec des effets fantastiques. OK. Mais par exemple, si on pense à Anne Radcliffe, elle, tout au long de son roman, de ses romans, elle va établir des événements, des effets fantastiques, mais à la fin, elle va tout détruire, elle va tout rationaliser. Donc, tous ces effets-là, en fait, ils tombent.
Ce qui l'exclut du fantastique, du genre fantastique, parce qu'on disait tantôt que le fantastique,
il ne faut pas détruire à la fin.
La tension doit être conservée entre naturel et surnaturel.
Mais même
jusqu'à
si ce n'est pas du fantastique, il reste qu'il y a vraiment l'effet fantastique qui est...
Des procédés, si on veut.
Exact.
OK, parfait. Puis on a évoqué tantôt avec Hugues Frankenstein de Mary Shelley. On le placerait où, là, à la lumière de ce que tu viens de nous dire? Parce qu'il y a des éléments de science-fiction, il y en a peut-être d'autres de fantastique.
En fait, je crois qu'on peut le considérer comme un des premiers de science-fiction, justement à cause du côté scientifique. Mais on sent quand même à travers le roman l'influence du roman gothique. Okay. Donc, c'est vraiment à cheval entre les deux. Là, okay. Moi, j'ai l'impression.
OK, parfait. Puis, une question que je me demande aussi, est-ce que le fantastique existe au Québec?
Oui, il existe. Souvent, on pense qu'il est apparu plus autour des années 60, mais en fait, il y a une tradition qui va remonter un petit peu plus loin, mais moi, je vais commencer par t'amener carrément du côté de l'Europe.
OK, parfait.
Pour remonter tout ça. Donc, en fait, le fantastique en Europe, il va apparaître à une époque où les gens vont se détacher de l'institution religieuse. Donc ça se passe vers la fin du 18e siècle. Puis il va y avoir quelques années là, d'intervalle entre l'Angleterre puis la France. Puis justement, en parlant de roman gothique, le roman Le Château d'Otrante de M. Walpole, qu'il a écrit en 1764, c'est considéré comme... une des œuvres fondatrices du fantastique. Donc, okay. Il y a vraiment un lien direct là, entre le gothique puis le fantastique. Puis, en France, le fantastique va apparaître dans des moments qui vont être caractérisés par un retour à l'irrationnel, donc par opposition au siècle des Lumières, puis la raison, puis tout ça. Donc, il va avoir vraiment... on va délaisser la religion au profit, justement, des sciences occultes. Okay. Donc, le spiritisme, le magnétisme et tout ça. Donc, il va y avoir vraiment une sorte de tiraillement entre la raison et l'irrationnel. Puis ça va favoriser l'éclosion du fantastique. Puis il y a beaucoup d'auteurs romantiques qui vont aller chercher là-dedans, comme entre autres Balzac puis tout ça. Là. Il y en a qui vont aller s'inspirer de tout ça pour pouvoir en même temps réhabiliter la prose, parce qu'à ce moment-là, c'était surtout la poésie qui était en vogue. Et puis, en même temps, ça permettait de rejeter les règles, la raison, puis tout ça. Donc, ils sont vraiment allés dans ce genre-là. Et donc, avec tout ça, le romantisme, le fantastique et même le gothique, ça va finir par traverser l'Atlantique jusqu'aux États-Unis. Et du côté américain, ben, c'est clairement, je pense, Edgar Allan Poe qui a amené ce genre-là à son apogée. Puis, on peut parler à ce moment-là de gothique américain ou de fantastique.
Oui, parce que, bon, je vois quand même avec ce que tu as dit sur le gothique un peu plus tôt, des liens avec Edgar Allan Poe aussi. Là, la frontière entre fantastique, je me rends compte que fantastique, gothique, c'est vraiment les deux qui sont plus liés, puis que c'est la frontière qui est la plus floue, là, si on veut. Là. C'est deux genres qui se nourrissent à quelque part.
Oui. Okay. Oui, effectivement, le lien est vraiment très, très net entre les deux. Là.
Donc, aux États-Unis, bon, on peut voir ces genres-là. Puis si on ramène ça ici au Québec, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est présent encore aujourd'hui?
Ben, en fait, avec Edgar Allan Poe, on était dans le 19e siècle. On aurait pu penser que l'influence serait remontée jusqu'au Québec, mais pas vraiment. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même une littérature fantastique à la même époque.
OK.
Sauf que cette littérature fantastique-là, au Québec, va être plus issue des traditions orales avec les contes, puis les légendes, puis tout ça.
Oui.
En fait, au 19e siècle, le fantastique québécois va être surtout dans les formes courtes du conte et de la légende, et principalement parce qu'ils jouissent d'un préjugé favorable de la part du clergé.
Avec une espèce de morale qui
termine. C'est ça, ils les voient porteurs des valeurs catholiques. Donc, pour eux, c'est l'idéal. Puis en même temps, ça s'oppose aussi au roman qui est jugé comme immoral et malsain et tout ça.
Oui.
Donc, pour le clergé, c'est vraiment l'idéal. Et puis, contrairement au fantastique qui est français ou anglais, qui étaient, eux, issus d'un détachement de la religion. En fait, le fantastique québécois, lui, il va naître à une époque où l'Église est ultra-puissante.
OK.
Donc, c'est vraiment la différence qu'il y a entre les deux.
Puis l'Europe, par exact. Exemple.
Et puis, au niveau des contes et légendes de cette époque-là, on va vraiment sentir l'opposition des forces. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir le diable séducteur, les forces du mal. Puis de l'autre côté, on va avoir les forces du bien. Puis elles vont souvent être incarnées par un curé.
La religion,
qui est tout puissant,
ouais, la paroisse.
Exactement. Ou à la limite, quand c'est moins intense, là, ça va être par un personnage, mais qui a une foi suffisante pour être rescapé.
Oui, oui, oui. On pense beaucoup au conte d'Honoré de Beaugrand, par exemple, là, où faire ses Pâques ou non est vraiment décisif et comme par l'histoire
oui,
au complet.
Ou sinon, on devient un loup-garou. Là,
ouais,
des
non,
choses
c'est
comme
ça, des trucs comme ça. Okay.
Effectivement. Donc, en général, l'élément qu'on dit surnaturel dans ces contes-là va être dû à une transgression de ce qu'il y a dans la morale chrétienne.
OK, parfait. Puis aujourd'hui, est-ce qu'il s'en écrit encore? Est-ce que c'est un genre qui est vivant au Québec, le fantastique?
Oui, aujourd'hui, oui. Mais il y a eu une espèce de presque mort, en fait.
De vague.
Exactement. Donc, à la fin du 19e siècle, c'était rendu très rare. Puis ça s'est vraiment effacé jusqu'à la Révolution tranquille. Après la Révolution tranquille, en fait, on va retrouver on va retrouver un contexte qui est similaire à l'émergence du fantastique en France. C'est-à-dire qu'il va y avoir un détachement de l'institution religieuse, puis en même temps, il va y avoir une nouvelle épistémologie rationaliste qui va être favorisée justement par l'affaiblissement de l'Église. Donc, à ce niveau-là, le nouveau fantastique, en fait, il va beaucoup plus se rapprocher du fantastique européen et américain.
OK.
Et ensuite...
Peut-être moins moralisateur?
Oui, ça, c'est...
Clairement?
Oui. Les personnages religieux, en fait, ils vont vraiment prendre un autre visage. C'est-à-dire que les personnages, on va encore retrouver les curés, les religieux, mais ces personnages-là vont avoir le droit de douter, alors qu'ils n'avaient pas le droit avant. Parce qu'au 19e siècle, si... le personnage doutait de l'existence du diable, ben c'était blasphématoire parce qu'en même temps, il doutait de l'existence de Dieu. Okay. Alors que maintenant, dans cette deuxième phase-là, le curé a le droit de se remettre en doute, le droit de questionner ses croyances.
Okay.
Donc là, on arrive vraiment dans un autre univers.
Okay, c'est plus le véhicule de l'Église catholique, mais
non,
plus des changements sociaux.
Voilà.
En tout cas, le reflet des changements sociaux.
Exact.
Puis, est-ce que tu peux nommer quelques exemples de livres, de romans fantastiques qui auraient été écrits au Québec? Pas nécessairement des avoir lus, là, mais est-ce que tu as des exemples?
En termes de fantastique du 19e siècle ou du nouveau?
Plus récent. Je serais curieuse de voir plus récemment si ça existe. Moi, j'ai lu certains trucs qui s'apparentent au gothique, mais au fantastique en tant que tel. Est-ce que, par exemple, ce que fait Patrick Sénécal pourrait être qualifié de littérature fantastique?
Je t'avouerai que j'en ai jamais lu.
Mais c'est plus horreur, c'est comme...
Effectivement, moi, de ce que j'ai vu, en fait, des films qu'ils ont fait, j'ai beaucoup senti l'horreur, mais je pourrais pas me prononcer là-dessus.
OK.
Là.
Donc, en tout cas, dans tous les cas, on peut pas dire que c'est un genre qui est nécessairement marketé en tant que tel. Là. C'est-à-dire qu'on le publicise pas ou qu'on le vend pas en tant que tel, si ça existe... On est à peu près pas au courant, là.
Non, effectivement. C'est sûr qu'il y a les maisons d'édition comme les éditions
Alire.
Font beaucoup de policiers avec un peu de science-fiction fantastique. Mais encore là, des fois, c'est pas très tranché, mais c'est
non.
Correct comme ça aussi.
Souvent, on met ça sous le genre paralittérature.
Exactement.
On les met tous sous la même bannière. Là.
Oui.
Donc, c'est peut-être ça qui se fait plus ici au Québec, là, en ce moment.
Donc, j'ai l'impression que ça ne suit pas à la lettre la définition que je me fais, moi, du fantastique, en tout cas.
OK, parfait. Ben merci beaucoup, Catherine.
Merci.
C'était vraiment intéressant puis pertinent. Donc, c'est la fin de l'émission. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on se donne rendez-vous le premier lundi du mois de mars prochain avec Catherine Doré pour de retour, dans le fond, pour animer l'émission. Alors, au revoir!